I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Que nous sommes en direct, c'est confirmé, on y est.
Ah, on est donc en direct après une préparation qui fut, Adrien,
laborieuse,
haute en couleur. Mais honnêtement, on est là pour ça. On n'est pas là pour des lives faciles. Ça, c'est des trucs de streamers de haut niveau. Nous, on est là pour avoir du mal à démarrer.
Ben voilà,
lives.
Regarde, il y a déjà du
monde. Vous êtes magnifiques, vous êtes incroyables. Kamel, Jules, Olivier. Hello, yo les gars, bonsoir. Trois façons différentes de dire bonsoir en trois messages, c'est absolument incroyable. J'imagine donc...
Le plaisir est total.
Qu'on nous entend, Adrien. Après, il faut applaudir Adrien, parce que Adrien a réussi à retourner une situation technique qui semblait perdue. Hein, il y a 15 minutes, on pensait pas qu'on allait faire un live.
Ouais.
Et grâce à toi, Adrien, on y est, donc merci, merci beaucoup.
On a fait ce qu'on a pu.
Pour revenir peut-être à de la NBA, on va parler du match 5 aujourd'hui. Pendant que je vais lancer un petit peu tout le monde sur les réseaux, sur Twitter, je te laisse un peu nous dire, t'as pensé quoi de ce match 5, Adrien, qui a été, franchement, je sais pas quand cette série va se terminer, mais on va se souvenir de ce match-là, je pense.
Ouais, c'est un match qui ressemble à un match bascule, par rapport à ce qu'on avait dit au bilan du match 4, avec la possibilité, je cite Madiane, hein, mais que en gros, si les Suns voulaient gagner, il fallait gagner à la maison pour ensuite gagner le match 7, on voyait mal les Suns... L'emporter à Milwaukee. Donc là, avec une victoire de Milwaukee au Suns, ça rebat un peu les cartes. Et puis il y a plein de détails qu'on a évoqués plusieurs fois tout au long des bilans des.
On peut se lancer des fleurs, hein, parce qu'il y a certaines choses, on va y revenir, qui se sont matérialisées. C'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Il s'est passé pas mal de choses, et notamment bon, il y a la Middleton expérience, on va y revenir. Certains soucis du côté des Suns qui n'ont pas été réglés. En tout cas, voilà. On va pouvoir développer, mais il s'est passé plein de choses. On va pouvoir revenir dessus. Beaucoup d'enseignements à tirer, je pense, de ce match-là.
Beaucoup d'enseignements. Alors que tout le monde arrive au compte-goutte. Merci beaucoup. C'était pas prévu. Donc là, on voit les vrais. On vous remercie beaucoup parce que je pense qu'il y a une heure, on savait même pas qu'on partait en live. En tout cas, vous arrivez. Alors, on va peut-être commencer à parler tranquillement de ce match et peut-être d'une chose hors terrain qu'on n'a pas vraiment évoqué. C'est l'absence de Thanasis qui est donc dans le protocole Covid. Je t'avoue, Adrien, que j'ai commencé à avoir très peur parce que j'ai commencé à imaginer le petit scénario film d'horreur où on prive, que ça soit du côté des Suns hein, ou du côté des Bucks, sans préférence, on nous prive des trois derniers matchs qu'on a attendait vraiment à cause d'une alerte Covid.
Oui, bon, heureusement, tout s'est bien passé. C'est vrai que sur ces finales, on est relativement épargné. On avait presque oublié ce contexte-là. Mais tant mieux, ça continue, même s'il y a quelques histoires de blessures qui ont quand même été un facteur sur ce match. On va y revenir.
Totalement. Eh bien, est-ce qu'on peut commencer, Adrien ? Les gens nous attendent. Le public est là.
Eh bien, allons-y. Tu es le chef.
Je voulais commencer par Devin Booker. C'est pas forcément le dossier le plus facile, mais je pense qu'on est assez d'accord, toi et moi, sur Devin Booker et sur sa performance d'hier. Grosse performance au tir, au shoot, au scoring, il en met encore 40. La stat un peu triste pour lui, c'est qu'il devient le premier joueur à réaliser deux matchs à plus de 40 points en finale NBA et à perdre les deux matchs. Mais je trouve qu'on retrouve beaucoup des choses que tu as mises en avant dans le précédent bilan, où Devin Booker marque beaucoup de points, mais au niveau de la diffusion sur le reste de l'effectif, c'est très pauvre, et je trouve que le troisième carton est un petit peu symbole de ça. Enfin, il y a deux symboles. Il y a le troisième carton, et il y a aussi cette dernière possession, enfin l'avant-dernière possession techniquement, où Tout le monde savait que Devin Booker allait partir dans une ISO et il fonce un peu la tête la première et c'est là où Jrue Holiday vient le cueillir.
Oui, bah même Jrue dans l'interview juste après match sur le bord du terrain le dit lui-même. Il dit bon, on savait que Booker allait chercher à prendre le shoot lui-même, surtout qu'il avait été excellent en termes de shot making jusque-là. Donc l'aide est faite là-dessus et effectivement on l'avait évoqué. Une victoire des Suns, malheureusement, ça n'a pas l'air de passer par un grand Booker au scoring, en tout cas pas seulement, il va falloir des choses autour, et une stat qui illustre ça, c'est les potentiels assists que j'avais vus. Donc en gros, les passes de Booker qui terminent par un shoot, une faute, en tout cas une fin d'action. Sur les games 1 et 2, donc les victoires des Suns, les potentiels assists de Booker, c'est 16 et 12. Game 3, 5. Game 4, 5. Game 5, hier donc, 4. Ça fait très très peu. Ça fait très très peu et c'est l'illustration que Booker, malgré un très fort shot making et normalement on va dire des espaces créés pour ses coéquipiers, ne les trouve pas et donc ne diffuse pas, comme tu disais, sur les différents roleplayers des Suns, que ce soit donc les shooters, Cam Johnson, Michael Bridges, etc. Et voilà, ça a été l'illustration dans ce match-là. Excellent Booker au scoring et pourtant il a manqué quelque chose. Alors on va en parler des roleplayers entre guillemets, des seconds couteaux des Suns, il y a d'autres explications. Mais effectivement, quand tu as un scoreur très très bon comme ça, tu peux t'attendre à ce que le reste de l'effectif soit plus productif en tout cas.
Il y a un commentaire très intéressant de Kamel qui nous dit que c'est surtout le rôle de CP3 de diffuser.
C'est vrai. Alors, c'est le nœud du problème.
C'est le nœud du problème. Je pense que là, on est dans une approche où on se dit Chris Paul n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que Chris Paul n'est pas vraiment au niveau sur les deux derniers matchs, il faut être honnête. Alors, est-ce que c'est cause de blessure? Quelle que soit la cause, Chris Paul n'est pas vraiment au niveau. J'avais donné dans l'épisode précédent la stat des lay-ups. On le revoit, on le voit encore dans ce match-là aller quelques fois au lay-up, se faire cueillir, notamment par Giannis, avoir du mal à finir quand c'est contesté. Et moi, je trouve que c'est une des preuves qu'on le fait jouer à contresens. L'idée, là, je trouve que l'idée qui ressort vis-à-vis de Booker, c'est le second initiateur. C'est-à-dire, quand mon premier chef d'orchestre n'est plus là, qu'est-ce que je fais ? D'habitude, c'est une question qui va se poser quand l'équipe, le joueur est sur le banc. Là, en l'occurrence, Chris Paul a même du mal à avoir un rendement quand il est sur le terrain. Donc, le rôle de second initiateur, bien souvent, en fait, selon moi, il y a en gros deux idéotypes. Et les finales de l'année dernière l'ont bien montré. Hein. Soit tu as un fort chef d'orchestre, entre guillemets fort, sur le banc, on pense à Rajon Rondo, qui va assurer sur des standards moins élevés que la star, en gros, va assurer son même rôle, c'est-à-dire porteur de ballon principal, etc. Soit tu as un modèle hit où tu te dis, quand le porteur de balle principal n'est pas là, j'ai tellement une constellation de bons passeurs que je peux survivre. Les Suns ne sont ni les Lakers, ni le hit. C'est-à-dire que Campaign est plus un mec qui va être dans le scoring, dans la pénétration, et Devin Booker n'est pas un initiateur. C'est-à-dire que quand le joueur qui a le plus le ballon durant cette post-season, c'est-à-dire Chris Paul, en gros 9 minutes par match, sort, les deux joueurs qui ont le plus le ballon après lui sont Devin Booker et Campaign et ne créent pas pour les autres. Et ça, c'est un véritable problème. C'est là où, on va en parler, Chris Paul est pas exempt de tout reproche, c'est même le joueur qui fait un petit peu tomber le château de cartes pour les Suns, mais le rôle de second initiateur, moi je t'avoue que je suis extrêmement déçu par ce que propose Devin Booker, parce que j'ai l'impression qu'on retombe dans les travers des Suns avant l'arrivée de Chris Paul, c'est-à-dire l'équipe d'en face se dit « Bon bah oui, en fait, Devin Booker peut en mettre 150. S'il ne met pas en confiance les joueurs autour, je ne risque rien. » Et Budenholzer, en cela, il a posé le piège parfait et il est tombé dedans les deux pieds joints.
Ouais, on en discutait entre nous. Finalement, ce scénario de match, en tout cas sur l'offense proposée par les Suns à base de Booker qui prend la moitié des shoots de l'équipe et qui va t'en mettre, hein, c'est pas le souci, mais c'est ce qu'ils veulent, c'est le piège qui leur a été tendu. Finalement, on s'est retrouvé donc voilà avec Booker qui a raté pas mal de lectures pendant le match. Moi, ça me faisait un peu rager de mon côté parce que, comme tu dis, c'est ce qu'on avait vu avant sur les Suns, là où on lui reprochait d'être voilà un scoreur dans une équipe qui perd, de pas savoir aider. Il aurait pu s'inspirer de tout ça, apprendre de tout ça et compenser un peu. Il n'a pas fait une seule bonne lecture. Tu parlais de Campaign. Alors oui, Campaign a fait beaucoup de bien dans ses playoffs où il mettait 15-20 points en sortie de banc. Là, Campaign aussi a beaucoup de mal. Il a beaucoup de mal à aller se créer des drives parce que, bon, on l'a déjà dit, mais on le répète, la défense des Bucks, c'est quand même une forêt de bras assez extraordinaire. Donc voilà, Campaign, hier, c'est 6 petits points. Donc pareil, il a du mal à diffuser. Et puis après, derrière, tu as aussi le cas de ton joueur intérieur, DeAndre Ayton, qui t'apportait aussi un peu, qui pouvait t'apporter pas mal de points. Bon, hier, il fait 20-10. Hein, la box score, encore une fois, la box score de Ayton, elle est très propre. Celle de Chris Paul, elle est très propre aussi. Mais elles sont un peu trompeuses en soi sur l'impact tout au long du match. Ayton a été oublié quelques fois aussi parce que, ben voilà, Chris Paul, on a vu. Alors, c'était presque choquant, mais on a vu Chris Paul parfois dans le corner, alors qu'il était sur le terrain, comme tu disais. Et donc, si Chris Paul ne t'apporte pas offensivement ce que tu disais, donc ce jeu, cette diffusion en attaque, et qu'en défense, derrière, il a été ciblé comme pas permis par Jrue et Chris Middleton, pas que Chris Paul défende mal, mais qu'il est plus petit que ces joueurs-là qui, en plus, ont mis leur shoot de manière assez vénère, passez-moi l'expression, sur la tête du défenseur à chaque fois de Chris Paul, eh bien, Chris Paul était, pendant un certain passage, un joueur négatif sur le terrain des Suns, c'est tragique.
Jules est totalement d'accord. Jules parle de problèmes de construction d'équipe dans le chat. Je pense, je te le disais en off, pour moi là, encore une fois, à l'image du problème de backup pivot, on voit que ces Suns-là, ils sont pas construits pour aller là. C'est-à-dire que la notion de deuxième porteur de balle pour assurer une attaque qui reste élite, c'est une question que se pose une équipe qui... Alors, j'allais dire en juillet-août. Bon, là, c'était plutôt en novembre, octobre-novembre. Joue le titre. C'est une question que se pose. Les Suns qui sont construits pour aller en play-off et idéalement passer un tour, c'est pas une question qui se pose. Donc, c'est là où j'ai... Parfois, quand on entrevoit certains problèmes des Suns, j'ai un peu de mal à leur tirer dessus parce que j'estime que parfois, on voit le résultat de la surprise. Là où pour les Bucks, je suis beaucoup plus dur parce que les Bucks, en réalité, sont construits pour arriver là, idéalement. Je peux pas en vouloir à Campaign. Il pense pas quand il est aux Suns au début de saison qu'il va avoir des minutes importantes dans une finale NBA. Et Monty Williams le pense pas non plus. James Jones, le GM, le pense pas non plus.
Donc, oui, tout à fait. Et puis, la rotation au poste de pivot, là, je vois les différents commentaires sur... je cite Kamel, le pauvre Ayton qui a trop joué hier, plus gros temps de jeu, c'est vrai. On y reviendra. Il y a différents ajustements... Qui ont été faits sur ce match qui sont assez intéressants à pointer, mais la rotation au poste de pivot amputée de Saric où tu n'as plus personne et tu te retrouves avec Torrey Craig qui joue tes minutes en 5 small ball entre guillemets et c'est tout, c'est bien la preuve que t'es pas une équipe qui était pensée ou qui anticipait les finales NBA parce que toujours au trade deadline on voit les signatures, on se souvient de cette année des grandes discussions autour de Drummond ou ce type de joueur, souvent le pivot vétéran qui peut contribuer, il joue 5-10 minutes pour soulager ton pivot titulaire. C'est les équipes qui visent le titre vont chercher ce type de profil, les Suns ne l'ont pas et c'est l'illustration qu'effectivement mais eux ne l'anticipaient pas, personne n'anticipait les Suns en fait en finale NBA. Donc c'est, comme tu le dis, j'ai aussi du mal à leur tomber dessus à ce niveau-là. On voit juste simplement les limites de cet effectif, quoi.
Ouais, on nous parle de Saric. On l'avait dit effectivement, c'est le tournant de la série qui, je trouve, encore une fois, je nous lance des fleurs, a été peut-être un petit peu sous-estimé, je trouve, par d'autres commentateurs parce que ça plombe la série. Par rapport à Ayton, Ayton a joué presque 45 minutes. Adrien, sais-tu que depuis le début des années 2000, un pivot en finale NBA qui joue autant, il y a deux noms, Shaquille O'Neal qui l'a fait plusieurs fois, mais bon, c'est le Shaq, et Pau Gasol dans un match de la finale 2009 contre Boston, c'est ça. Alors, je pense que les auditeurs le conçoivent, ça a changé la NBA depuis. C'est-à-dire que la charge de travail qu'on impose à DeAndre Ayton en ce moment, c'est plus tenable. Il ne peut pas, DeAndre Ayton, pendant 45 minutes en finale NBA, poser des écrans en attaque, finir au cercle, défendre Giannis Antetokounmpo, protéger la raquette. C'est trop, ce n'est pas possible. Et là, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait dans les minutes où il n'est pas sur le terrain. C'est une question qu'on pose depuis le début, mais les auditeurs pourront s'en souvenir. On l'a jamais posé dans les termes. Il faut faire jouer DeAndre Ayton 44 minutes et ensuite, on voit ce qui se passe pendant les 4 autres parce que c'est inimaginable. Et là, parfois, quand on reproche à DeAndre Ayton d'être trop soft à la fin, peut-être qu'on en a le résultat là, parce que c'est difficile. Alors, il aurait peut-être pu mieux le faire, mais de prendre des positions au poste face à des Lopez quand ça fait 45 minutes que tu joues, c'est compliqué.
Oui, et puis c'est Lopez, Portis et Giannis l'opposition, donc c'est pas non plus... même bon, Portis a un cran en dessous des deux autres joueurs théoriquement, mais qui sur ses finales est positif et impose un défi physique assez important. Là où donc du coup Ayton est le seul big, et comme tu disais, il y a deux facteurs, il y a les minutes, donc à force de Ayton, donc qui doit essayer de contribuer tout du long, et c'est pas forcément évident, surtout comme je le disais, on a vu beaucoup Booker rater des lectures, et donc moins Chris Paul avec la balle sur un pick and roll avec Ayton, on l'a très peu vu. Donc finalement, il a peu vu la balle aussi en attaque, sur les mismatchs, etc.
Il touche la balle 12 fois dans la peinture, j'ai vu la stat. C'est pas beaucoup, hein.
Non, c'est pas beaucoup du tout, surtout qu'il est efficace sur ses finales. Alors, il y a l'aspect physique, la fatigue de jouer beaucoup de minutes, il y a aussi un aspect psychologique qui n'est pas quantifiable, mais bon, quand on te rate 3 fois alors que le défenseur sur toi, il fait 1 mètre de moins, bon, au bout d'un moment, ça te fatigue et tu n'as plus envie d'aller la chercher, la position. C'est très bête, mais pour un jeune joueur comme Ayton, parce qu'on le rappelle, il est quand même un très jeune joueur, c'est compliqué de rester concentré. Donc, il y a cet aspect-là avec Ayton sur le terrain, et le passage sans Ayton, bah, on l'a vu au début du deuxième quart-temps. Faut tirer un coup de chapeau modéré, mais tout de même à Bud, qui a dit « Ok, vous voulez jouer donc avec Torrey Craig au poste 5, et bien je vais vous envoyer une line-up avec Portis et Lopez, et puis on va voir ce qui se passe. » Et en fait, c'est là que le run des Bucks commence. Alors aussi avec un Jrue Holiday dans un jour extraordinaire Lillard-esque. Au niveau du shot-making. Lillardesque, voilà, on avait dit « T'es pas Lillard ?» Bah si, t'es un peu Lillard, frérot, bien joué à toi. Voilà, mais ça fait partie de ça, et donc... Début de quart-temps, gros run sans Ayton avec le big ball entre guillemets des Bucks. Forcément, Monty Williams remet DeAndre Ayton. Donc déjà, tu vas lui rajouter une surcharge de minutes. Et au moment où Giannis re-rentre, Monty Williams ne peut pas sortir Ayton vu que toute leur défense de Giannis est basée sur ce 1 contre 1 là. Et donc, c'est aussi une guerre des coachs qui a été gagnée par Bud de par les lacunes de l'effectif des Suns, effectivement.
Je trouve... Alors, il faut lui donner du crédit, mais... Il y a là, quand on regarde ce passage du match, il y a des shoots grand ouverts ratés par les Suns. Franchement, plus que leur fin de match, on va y revenir. C'est peut-être ce moment-là où la bascule se fait. Parce que ce 5 avec Portis et Lopez crée des grands shoots ouverts qui sont ratés.
Oui, oui, tout à fait. Mais les Suns sont... Mais c'est là où j'ai envie de revenir un peu sur Chris Paul, où j'ai envie de le pointer du doigt. C'est sur ce moment-là. C'est-à-dire que, donc, premier quart-temps, les Suns artillent comme jamais. Ça tombe super bien. Jay Crowder met dedans. C'est super. On met 37 points. On est très content. Sur le deuxième quart-temps, comme tu dis, ils commencent à avoir des shoots. Et de plus en plus. Et ils les prennent. Ils continuent de les prendre parce qu'ils sont en confiance. Sauf qu'ils les ratent, notamment Torrey Craig qui tente des step-back. Enfin bon. Enfin, on était quand même
J'ai une stat sur Torrey Craig. Tu vas voir.
Garde-la bien au chaud. Et oui, et du coup, donc les Suns continuent à prendre des shoots et des shoots, ça ne rentre pas. Les Bucks commencent à revenir petit à petit, et c'est là où on attend Chris Paul. Et c'est là où il est le point god, habituellement. C'est ce qui a fait la force de Phoenix sur toutes ces playoffs. C'est qu'au moment où commence à y avoir une petite urgence, parce que les Bucks sont en train de revenir, tu poses la balle, tu ralentis le tempo, et tu joues les systèmes, tu joues pour un shoot plus simple, tu joues plus lentement, et tu calmes un peu le jeu. Et ça n'a pas été le cas. Et du coup, on est parti sur un énorme run des Bucks, que Paul n'a pas réussi ou n'a pas su freiner en tout cas.
Torrey Craig, Adrien, il a joué 9 minutes.
Oui, il a tu pris sais, combien de shoots, c'est ça que tu vas me dire?
Non, tu sais, il a touché la balle combien de fois?
Non, vas-y, dis-moi.
9 fois. Tu sais...
Une fois par minute.
Tu sais, il a fait combien de dribbles, Torrey Craig? 2.
Un peu.
Oui. 2. Non, mais il y a un moment où tu voyais bien la défense des Bucks, notamment quand ils avaient ce 5 grand. Ils disaient, bon, bah, on va mettre le grand sur Torrey Craig, et puis voilà. Enfin, il se passe rien. Il se passe rien. Et là, je trouve qu'on a peut-être fait un amalgame, on va revenir sur le match après, entre la profondeur des Suns et leur polyvalence. On a souvent fait cet amalgame-là, alors qu'ils sont pas polyvalents, les Suns. Tu t'en rends compte maintenant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de profils redondants, et encore une fois, quand l'initiateur n'est plus là pour alterner les styles de jeu, le salut des Suns, c'est de l'ISO, de Booker. Donc en vrai, moi je suis extrêmement, pour en venir au début du podcast, je suis déçu par ça. Pour un peu rebondir sur ce que t'as dit, ils auraient dû changer leurs habitudes. Et je trouve que dans ce match-là, en fait, on a des blocs des Suns où on a le premier bloc, on prend des tirs à 3 points, on met tout. Ensuite, on a le bloc troisième carton, Devin Booker tente des iso. En fait, on a des blocs de caricature presque de match, là où, encore une fois, on l'a dit, ces Suns sont censés être scolaires. Ce n'est pas une équipe qui se bonifie dans le chaos. Donc, je suis très partagé quand je regarde mes stats et je vois que Devin Booker, il prend sur les deux derniers matchs, il prend 31 tirs et il y en a 15 qui sont issus de possessions où il touche la balle plus de 6 secondes. Plus de 6 secondes avant.
C'est énorme.
C'est énorme. Enfin...
Après, je mettrai une nuance sur la polyvalence. Enfin, c'est compliqué à quantifier, mais un Michael Bridges, on l'a vu sur les débuts de finale aussi d'ailleurs, pouvoir aller mettre des shoots, driver il fait quelque chose, enfin, il fait un peu plus que simplement shooter comparé à des Cam Johnson ou des Jay Crowder. Cam Payne a quand même une certaine versatilité de manière offensive, mais c'est vrai qu'on ne peut pas leur demander de gérer une offense parce que, mais je pense aussi que ça, c'est leur côté scolaire. C'est que c'est des joueurs qui appliquent tout simplement, c'est des jeunes joueurs. Et donc, bon, quand le général, parce que j'ai une action en tête là qui m'est venue de Chris Paul qui lance une passe dans le corner beaucoup trop haute à Cam Johnson qui du coup la perd et est crédité du turnover qui n'apparaît pas pour Chris Paul, mais c'est totalement pour Chris Paul. Et ça, c'est l'illustration parfaite de, bah, tu n'as pas ce gars-là. Et tout au long de l'année, ils ont joué avec la diffusion de Chris Paul. Donc au moment de changer en NBA Finals, alors qu'il y a un gros défi physique, il y a une certaine pression, etc., c'est dur. On en parle régulièrement dans le podcast, la répétition, c'est important au basket. Et savoir changer d'un coup de style de jeu, c'est pas donné à tout le monde, c'est l'avantage des vétérans sur les jeunes joueurs notamment.
Il y a pas mal de commentaires assez intéressants. Camel ou encore Off Mentality 69, je le fais en anglais, qui nous parle beaucoup du fait que quand tu regardes ce match ou tu regardes le box score, tu te dis mais comment les Suns le perdent, ou en tout cas la victoire, malgré tous les éléments qu'on met en avant bout à bout, la victoire des Bucks, elle est un peu de peu.
Mais j'ai envie de dire
c'est un peu la l'expérience Bucks avec au-dessus en espèce de cerise la Chris Middleton experience, c'est-à-dire que on s'attendait pas à voir les Bucks gagner autrement, parce que les Bucks construisent leur victoire sur de la défense, notamment dans les moments clés du match, et c'est pas forcément quelque chose qui va se ressentir sur des gros écarts, mais c'est sur des possessions clés où ils font la différence. Et ça, c'est d'ailleurs, on en parlait en off, c'est extrêmement symbolique, je trouve, Adrien. On avait peur de cette équipe des Bucks dans les moments chauds. On remarque que les deux moments chauds des deux derniers matchs, non seulement ils ont bien su les gérer, si on veut, même s'ils se prennent un mini-run dans le 5 à la fin, et surtout, ils les gèrent bien défensivement. Parce que les deux actions symboliques, c'est le contre de Giannis dans le match 4 et c'est cette interception incroyable d'Holiday dans les mains de Booker. Donc ça, c'est du clutch. C'est peut-être pas des shoots step back à 10 mètres, mais ça montre quand même qu'ils ont su faire tourner la pièce dans les fins de match.
Ils sont clutch défensivement. On avait plus peur du clutch offensif. Ils l'ont été aussi. Et donc, pour revenir sur le commentaire d'Off Mentality 69, du coup, que tu citais, c'est vrai que quand tu regardes la feuille de match, et si tu vas chercher le shot quality, on l'avait évoqué un peu plus tôt dans ces finales, donc la qualité des shoots qui sont pris par rapport à ce que prennent les équipes en saison régulière pendant les matchs, et donc la probabilité qu'ils ont de mettre X ou Y points, ce match-là, c'est le premier depuis le game 1 où, statistiquement, avec les shoots qui ont été pris, les Suns doivent le gagner. Depuis le game 1, c'est le premier. Sinon, c'était toujours Milwaukee, même le game 2 qui a été remporté par Phoenix. Et parce que, donc, oui, on a effectivement... tu l'as bien dit, le commentaire le dit aussi, les Suns ont été adroits à 3 points, mais les Bucks ont été très adroits. Les Bucks ont été exceptionnels en mid-range, notamment donc Middleton qui a très mal commencé. On était parti sur une Chris Middleton expérience.
Il commence mais, à 1 mais sur 7. C'est justement la Chris Middleton expérience, Adrien. C'est-à-dire que le mec fait 1 sur 7 pour démarrer le match et il se transforme en Michael Jordan pour terminer une rencontre. C'est tellement Chris Middleton, c'est incroyable.
Oui, voilà, c'est ça. Jrue Holiday met des shoots comme rarement. Le deuxième quart-temps, Jrue Holiday tient presque les Bucks parce qu'on a parlé de quelques ajustements, des line-up, les différentes line-up. Mais si Jrue met pas des shoots improbables et n'est pas aussi efficace, en tout cas, les Bucks ne reviennent pas, en tout cas, aussi vite. Donc voilà, les Bucks ont mis leurs shoots aussi dans ce match-là. Et alors certes, le momentum, trois victoires de suite pour les Bucks, trois défaites de suite pour les Suns, ça, on a l'air de partir sur un 4-2, sachant qu'on va à Milwaukee, etc. Mais je suis d'accord avec les différents commentaires. Ce match, il peut très bien partir dans l'autre sens. Hein. Ça se joue à rien.
Mais est-ce que tu peux pas aussi te dire, Adrien, ils sont à un match de shooter de façon totalement anormale dans le 2 à être déjà chez eux aussi?
Ah bah aussi, également. Ah mais c'est sûr. Mais après,
c'est basket, on réécrit. Hein. C'est facile de réécrire. Mais moi, je trouve, je l'ai dit hein, pour ouvrir le live, je trouve que, mis bout à bout, on commence à voir tous les problèmes qu'on a soulevés un par un. Quand Ayton n'est pas sur le terrain, ils savent plus quoi faire. Ils sont extrêmement dépendants vis-à-vis de l'adresse. Ils savent manier. Scolairement, ils peuvent gagner. Leur rotation commence à poser problème. C'est-à-dire que quand Torrey Craig est sur le terrain pendant 9 minutes et a si peu d'influence sur le jeu, en fait, la rotation, elle se retrouve à 7 maintenant. 7, et ça devient très compliqué. Puis alors, quand on serait sur le gâteau, pas de Connaughton, mais des shoots, ça aussi, ça, c'est peut-être pas du shoot, c'est beaucoup de la dimension physique, mais Pat Connaughton, le nombre de rebonds qu'il aura pris sur la tête dans ses finales, là où, ok, tu te prends des rebonds de Giannis, c'est un mutant, je peux le comprendre. Des rebonds de Brook Lopez, ok. Portis, ok. Mais il y a un moment, Pat Connaughton qui rentre dans Devin Booker plus d'une fois comme il l'a fait, c'est pas possible. Enfin, il faut... C'est ça, c'est peut-être de la dureté, l'aspect physique, on en a beaucoup parlé, et ça, on l'avait dit dès le début de la série, plus la série serait longue, plus ça irait dans le sens des Bucks. On est au match 5, bientôt au match 6. Entre parenthèses, la théorie que j'ai mis en avant, chaque match, il y a un joueur des Suns qui se retrouve par terre à se tenir une partie du corps parce qu'ils se font rentrer dedans. Je suis un peu inquiet pour la suite. Et on a une bonne réflexion sur Monty Williams qui sort Jalen Smith. On avait aussi un commentaire qui nous demandait un pivot au minimum, ça change la donne. Adrien, est-ce que le niveau de jeu, il n'est pas trop élevé pour ces deux facteurs-là? T'en as déjà parlé, hein, des Drummond, etc., mais...
C'est pas un remède miracle. C'est clairement pas un remède miracle. Je ne prétends pas avoir la solution, mais je pense que sur la longueur, notamment pour cet aspect physique, pour, on l'a évoqué, le repos d'Ayton et le garder impliqué, pour moins te faire enfoncer comme pas permis sur les minutes Torrey Craig, c'est parmi les différents pansements. Et puis, ça te permet aussi... de ne pas trop avoir de line-up 5-out comme ils ont eu. Les line-up 5-out, les moments où tu as Chris Paul qui n'est pas dedans, ton offense, elle est très stéréotypée et les Bucks la lisent très facilement. Donc ça, ça va un peu avec. Le Jalen Smith, le rookie, il faudrait demander à Alan, mais je ne suis pas sûr que ça arrive.
Moi,
Pourquoi pas ?
Je le souhaiterais bien. Mais, ça... sur,
mais oui, sur un Game 6 qui peut être décisif de NBA Finals, ce n'est pas possible. Frank Kaminsky, je ne pense pas qu'il revoit le terrain, parce que c'est ça aussi. La série avance, les deux coachs resserrent leur rotation. On commence à bien voir qu'on joue du côté des...
Est-ce que Bud, il la resserre vraiment, Adrien? Il la resserre pas vraiment,
bon,
Bud,
j'espère en fait. J'espère que là, il a compris que Jeff Teague doit plus voir le terrain, hein, parce que ce passage en premier quart-temps de Jeff Teague, c'est quand même... Non, mais excuse-nous, Bud, il y a un moment donné, il faut plus... Voilà, donc il a joué une bonne partie du premier quart-temps. Il est rentré vite fait en fin de première mi-temps, il me semble. Puis après, on l'a plus vu de la deuxième mi-temps. Donc voilà, mais après, oui, bon, bah, c'est Pat Connaughton et Bobby Portis qui jouent la plupart des minutes sur les terrains. Et comme tu l'as dit, Pat Connaughton fait une super série, il faut le saluer. Hein. Pat Connaughton est un des meilleurs role-players de cette série, mais aussi derrière les trois aussi, il faut dire ce qui est. Quand les trois stars, entre guillemets, bon, la superstar et les deux lieutenants des Bucks jouent à ce niveau-là, bon, ouais, bah, tu perds le match. Hein.
Il ne t'arrive pas à grand-chose. Il y a Doc qui nous dit, justement, je trouve incroyable que Booker, lui seul, évite le blowout aux Suns. Je vais un peu reprendre tes mots, c'est un peu la théorie. Booker, c'est le plancher, mais il va toujours t'assurer les minima au scoring. Mais le truc, c'est que quand tu es en finale NBA, quand tu dois gagner contre une équipe en plus en réussite comme ça, il faut que le reste du collectif fonctionne. Je trouve que le troisième carton de Booker... Il est certes impressionnant d'un point de vue individuel, mais il pose 3 voire 4 problèmes. Le premier, Jrue Holiday, il prend 2 fautes très 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 vite dans le match. Le problème, c'est que Jrue Holiday, défensivement, sur ses finales, il est exceptionnel. Donc, quand Devin Booker fait des iso, il veut attaquer Pat Connaughton. Tant mieux pour Budenholzer, qui se dit, j'évite à Jrue Holiday de prendre plus de fautes. Parce que tu viens de le dire, Jeff Teague, c'est un vrai problème quand il est sur le terrain. Donc en faisant ça, tu t'assures de ne pas avoir de Jeff Teague sur le terrain. Deuxième problème, tu permets aux Bucks d'avoir un grand. Parce que tu sais que les iso de Devin Booker sur ce match-là ont été vraiment, de façon un petit peu caricaturale, loin du panier sur du mi-distance. Adrien fait le signe des... The Year, j'ai failli oublier le mot. Donc du coup, tu as peu de chances que le corner de Torrey Craig, voilà, qui stationne dans le corner, soit trouvé. Ça pose un autre problème. Enfin, j'en avais deux autres, je m'en rappelle plus. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'individuellement, la perf est à souligner. Puis oui, bien évidemment, un des autres points, c'est que ça fait pas marcher le collectif et que quand tu l'avais dit dans le podcast précédent, quand tu dois activer les joueurs autour. Quand le joueur autour, ça fait 2 cartons qu'il a pratiquement pas touché la gonfle, il va pas se retransformer en role-player efficace.
Oui, bien sûr. Oui, non, mais il y a ce côté tunnel vision, comme tu disais, qui était... tu vis et tu meurs, en fait, avec Devin Booker, et l'interception finale de Jrue, elle illustre parfaitement ça. C'est-à-dire que tout le monde sait que Booker va aller shooter à mid-range, et du coup, Jrue a aucune peur d'aller aider. Il aide sur Chris Middleton à ce moment-là, parce que c'est Chris. Je crois que c'est PJ Tucker qui saute. Il y a Giannis en opposition. Ouais. Enfin, il est bloqué, Booker. Normalement, tu la ressors. On en a assez parlé. On en parlait d'ailleurs sur Giannis qui continue à diffuser, à faire des passes d'ailleurs, à chaque fois que la raquette est arrêtée. On évoquait dans le podcast précédent LeBron qui fait toujours la passe, ce qui lui a été reproché. Mais dans ce moment-là, justement, Booker a tenu quasiment tout seul. Du coup, il n'a aucune confiance pour faire la passe parce que c'est peu probable que ce soit Cam Johnson ou Michael Bridges ou que sais-je qui mettent le shoot de la gagne à ce moment-là. Du coup, Booker s'entête. Tout le monde sait qu'il va s'entêter. Et donc, tu meurs aussi par sa très grosse performance jusque-là. Donc, c'est un peu dommage, c'est un peu paradoxal, mais effectivement, ça ne suffira pas. On l'a dit, et Madiane l'avait bien dit, une victoire des Suns sur ces finales ne passe pas par un Booker splendide, ne passera pas par un Booker splendide. Peut-être sur un match, ça peut arriver, mais sur une série, ils ont besoin du reste.
Alors que, encore une fois, le shot-making de Booker est inimaginable sur ce match. On ne vient pas critiquer le joueur en lui-même qui met des shoots encore incroyables. Enfin, vraiment.
C'était un match au shot-making, c'était n'importe quoi. Parce que Booker, Drew, Chris Middleton, on n'a pas vu un grand match de basket collectif comme certains peuvent l'apprécier. Mais par contre, en termes de qualité de shoot, on a vu des trucs.
Ça met des tirs incroyables. Donc, on ne va pas critiquer la performance individuelle, on vient juste se dire que, comme on a pu le faire avec d'autres équipes dans le passé, parfois c'est dans l'intérêt de ton adversaire qu'un seul joueur s'occupe du scoring parce que le reste de l'équipe ne diffuse pas. Et surpris de voir Drew tricher sur Chris Paul pour gratter la... Ah, tricher sur Chris Paul, j'ai cru à une vraie triche. Sur Chris Paul pour gratter l'interception, c'est très vrai ce que dit Tom, parce qu'en plus, Chris Paul, il fait 3 sur 3 sur le match à 3 points. À longue distance, il est plutôt bon, mais ça revient à ce que tu dis. Tout le monde sait que Booker, je pense que dans l'idée de Booker, là, il enfonçait encore Tucker, il faisait un turnaround et il shootait à mi-distance. Je pense que c'est ce qu'il avait
dit. Ouais, c'est possible. Non, mais Drew fait la bonne lecture, il voit ce que va faire Booker et... Effectivement, il y a une part de pari, mais Booker l'a déjà fait tout au long du troisième et du quatrième quart. Il y a eu 2-3 fois. Alors, il les met. Donc, du coup, c'est super, on se lève, c'est magnifique, on salue. Mais il y a eu 2-3 fois où il prend des shoots alors qu'il y a un gars open. Je me souviens d'une action avec Campaign qui est juste derrière lui. Campaign à 45 à 3 points. Normalement, bon, tu ressors et c'est lui qui va te le mettre. Voilà, Booker il a encore un défaut en tant que joueur, hein, même s'il reste un magnifique scoreur. C'est qu'effectivement, les lectures, c'est pas encore ça. Il n'a pas appris de ces années précédentes aux Suns sans un général type Chris Paul.
C'est là, encore une fois, hein, c'est une conclusion qu'on met souvent en avant, mais on voit certaines limites des Suns et il ne faut pas leur tomber dessus parce que je pense vraiment que là, on s'attaque à certains points. Après, pour parler un peu des Bucks, tu as parlé de... franchement, le match de Giannis... Alors, Giannis me surprend parce que je l'ai déjà dit la dernière fois, je pensais vraiment qu'il allait en mettre 40 à chaque match. Et là... il est beaucoup dans la diffusion.
Il en met 32. Hein.
Il en met 32, ça va, c'est pas mal. Et il est beaucoup dans les passes, beaucoup dans l'implication. Alors, j'ai deux explications à ça. Je pense que physiquement, les matchs 2 et 3, c'est quand même très très dur à reproduire, peut-être. Et aussi, il a peut-être fait le constat qu'on reproche à Devin Booker de ne pas faire, en se disant, ouais, mais j'ai perdu un match où j'en ai mis 40. Il faut peut-être que j'implique les joueurs autour de moi parce que je sais que si la raquette est ouverte, ça va poser plus de problèmes à DeAndre Ayton. DeAndre Ayton joue 45 minutes. Enfin, je suis plutôt surpris par ce qu'il fait. Après, ça a été dit dans le chat à un moment. Bien évidemment, les lancers francs, quand il fait 0 sur 2, je me dis « Ouh là 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 là, si tu perds, là, ça va être compliqué. » Mais puis alors, le dunk, c'est la dernière action, elle est légendaire. Elle est incroyable.
Et le lancer franc sur le dunk, il doit jamais exister. Hein. Il y a eu 2-3 fautes pas très... Là, manque de discernement de la part de Chris Paul, encore une fois, à ce moment-là. Je trouve que ça illustre aussi les frustrations sur ce match. Mais pour en revenir à Giannis, oui, totalement. Mais en fait, il fait une qualité de ce qu'on pouvait lui reprocher avant, c'est-à-dire de trop se reposer et d'avoir confiance en ses lieutenants, Chris Middleton notamment, Drew Holiday depuis cette année. C'est-à-dire que oui, dans le match, il voit que Chris et Drew mettent. Eh ben, il y a eu 2-3 actions où il avait la balle, il appelle Middleton pour un end-off, il lui dit « Tiens, c'est pour toi ». Et effectivement, peut-être que c'est plus modeste, là ça passe parce que Chris Middleton est au sommet de son expérience, Drew met dedans, Giannis identifie qu'il n'a pas besoin de se surdonner, surtout qu'il voit qu'Ayton est fatigué et qu'il sait que la série dure. Voilà, comme on disait à la fin du match 4, je trouve Giannis très très bon dans sa gestion de lui-même, et de la dynamique offensive des Bucks, parce que par contre, en défense, il se donne, il est toujours là, il n'y a rien à dire.
Ça a été dit aussi, hein, les Suns ont du mal à rentrer. C'est là où tu peux parfois aussi Chris Paul a tenté un nouveau des layups, il en a tenté 4, je l'avais dit dans l'épisode précédent, ça prouve bien qu'ils le font déjouer, et à chaque fois qu'il y a une aide, il se fait ratatiner. Il y a aussi la fameuse alternance dont on parlait, qui existe de moins en moins du côté des... Parce que DeAndre Ayton est moins trouvé. Alors ça, faut donner du crédit à la défense. On t'en a parlé, hein, le pick and roll Ayton.
Paul Ayton
qui a été si dévastateur en début de série. On le voit de moins en moins. On se parlait pendant le match tous ensemble. Je vous disais, mais c'est quand la dernière fois qu'on a vu un pick and roll Paul Ayton? Alors que il est toujours aussi dominant. Mais là, c'est l'effet boule de neige. Vu que grâce à l'architecture offensive des Suns, tu peux laisser un intérieur. Du coup, vu que sur le pick and roll, t'as moins peur de Chris Paul parce qu'il met moins, forcément, tu défends plus DeAndre Ayton que le porteur de balle. Hélas, tout de suite, ça pose problème pour cette équipe des Suns.
Oui, c'est sûr qu'on a vu les limites, comme tu le disais, mais ça a été un peu le fil rouge de cette attaque des Suns. Une fois que Chris Paul, enfin, on y revient à chaque fois, hein, mais une fois que Chris Paul n'est pas là pour apporter justement une certaine alternance entre le pick and roll avec Ayton et la diffusion sur les différents roleplayers qui sont souvent dans les corners et qui peuvent se lâcher un peu, des Michael Bridges, des Jay Crowder, des Cameron Johnson, une fois que tu n'as plus cette alternance, l'attaque des Suns, c'est beaucoup plus simple à lire, et du coup, la défense des Bucks s'adapte très facilement, parce que les Bucks, eux, sont toujours là, et on a salué offensivement le travail de Jrue, notamment de son shot-making Lillardesque. Défensivement, il a été très bon, il est gênant pour Chris Paul, il est toujours au contact, il impose toujours le défi physique dès le premier dribble, il ne laisse pas l'attaquant prendre le rythme avant de commencer à défendre, ce qui est souvent une erreur au basket, et encore une fois, même si la box score de Chris Paul paraît très très propre, il a fait un match plutôt chaotique. On a vu très peu de passes de Chris Paul terminer créer un vrai décalage en fait pour les différents roleplayers des Suns. C'est effectivement ça, mais le paradoxe, c'est que ce quatrième carton, les Suns reviennent, quoi. Ils reviennent avec un Chris Paul qui est bon, avec un Booker qui met dedans, et à un moment on se dit qu'ils vont y arriver.
Ah, mais moi je me dis complètement qu'ils vont y arriver.
Mais oui. Sur les lancers de Giannis aussi qui cèdent face à la pression, et puis voilà, à ce moment là d'ailleurs les Suns qui ont été meilleurs au rebond aussi globalement sur le match, mais à la fin
les Suns qui shootent autant que les Bucks, enfin, il y a beaucoup, ça aussi c'est un élément, on s'était dit, il y a toujours une différence au niveau des shoots, il n'y en a pas eu sur ce match. C'est vraiment aussi, encore une fois, tu l'as dit, le shot making était irréel sur ce match-là.
Oui, totalement, puis là je vois le message d'Olivier qui dit, voilà, si l'équilibre entre les trois stars des Bucks se maintient, bon, ils vont gagner. Oui, a priori, ils viennent de faire une perf d'ailleurs, où ils sont donc les trois à plus de 25 points et 50% au shoot. C'était la dernière fois chez les Lakers avec Magic, Karim et James Worthy. Enfin, voilà, ils viennent de nous proposer une perf qui est all time. Donc effectivement, dans cette configuration là, comme tu le disais, en fait, on arrive à voir les limites entre une équipe qui est construite pour gagner le titre clairement depuis plusieurs années, avec des légers ajustements pour justement compenser tes différentes faiblesses, et une équipe qui arrive là par hasard. C'est un peu méchant de dire ça comme ça, il n'arrive pas par hasard, mais disons qu'il y a une équipe surprise qui n'avait pas pu tout anticiper et qui du coup commence à entreapercevoir ses limites, même si c'est aussi dû à des facteurs extérieurs, la blessure de Saric, la blessure de Chris Paul qui l'handicap peut-être, en tout cas voilà, un effectif plus limité.
Alors que le paradoxe ultime, c'est que ces Bucks de base, quand tu compares à d'autres équipes qui jouent le titre, ont aussi des faiblesses qui sont qu'on a souvent mises en avant. C'est juste que là, ils tombent, et ça renvoie à notre... J'arrête pas de dire renvoyer. Ça renvoie à notre preview de cette série-là. Pour les deux équipes, c'est une aubaine, cette série-là. C'est une aubaine parce que tu tomberas rarement face à une équipe en finale NBA avec ses faiblesses. Je mets des grosses guillemets parce que ce sont deux très fortes équipes. Faut pas les diminuer. Mais c'est une aubaine de tomber. Typiquement, les Bucks tombent sur une équipe entre guillemets normale à ce stade-là de la compétition. Il y a un joueur pour suppléer Chris Paul et il y a un joueur pour suppléer DeAndre Ayton. Et du coup, les deux axes où ils n'arrêtent pas de pilonner en ce moment sont les pertes sont limitées. Il n'y en a pas du côté des Suns, donc ils en profitent. Adrien, si je prends un peu de recul, j'ai quand même l'impression qu'on est... si on nous écoute...
Fataliste,
en tout cas, on sous-entend que c'est terminé le match d'après, non?
Ah, c'est toujours compliqué. Encore une fois, il y a ce facteur Middleton expérience, on ne sait jamais. Mais hors plaisanterie, bon, ça,
contre à la
J'ai du mal à voir les Suns prendre un match à l'extérieur sur cette série. On l'a dit, notamment sur le bilan du match précédent, c'est vrai que l'équipe qui gagne à l'extérieur prend... à risquer d'aller jusqu'au bout. Là, la dynamique, en plus, on est sur 3 victoires de suite des Bucks. On voit le body language, quoi, l'expression des joueurs aussi. On a vu à un moment donné, pendant ce run de deuxième quart-temps des Bucks qui reviennent donc. Parce qu'on rappelle quand même, à la fin du premier quart-temps, on se dit, bon allez, les Suns sont repartis sur un barrage. Ça va être très, très, très compliqué pour les Bucks. Et pendant ce run, on voit pas d'expression de rébellion chez les joueurs des Suns. On a vu tout du long un CP3 assez fermé, notamment son visage qui était très fermé. Voilà, la dynamique semble clairement du côté des Bucks, donc c'est vrai que c'est difficile de voir des points positifs, mais comme on l'a dit, comme on l'a vu là, dans les différents commentaires, ça se joue finalement pas à grand chose. Là, cette interception, elle se fait pas, Jrue fait pas ce gamble, voilà, le rebond sur les lancers, les Suns peuvent très bien le prendre, et ça peut alors que tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que Ayton qui a beaucoup joué, qui a eu des soucis au fur et à mesure, Chris Paul pas bon, Cameron Payne qui a pas réussi à suppléer, Booker un peu trop tunnel vision qui diffuse pas, etc. Et pourtant, ça se joue à rien. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faut mettre le focus du côté des Suns. C'était faisable, c'était prenable, et donc ça l'est, alors qu'on n'a pas été bon. J'essaie d'être optimiste comme je peux. Hein.
C'est bien, Adrien, c'est très bien. J'ai quand même l'impression, on en a parlé pendant le match, ils nous ont fait le match 2, sauf que cette fois-ci, il y avait une équipe qui était aussi dans l'anomalie en face. C'est-à-dire que oui, il y a un delta totalement incroyable quand ils infligent un 37-21, puis ensuite ils se prennent un 43-24. Mais en fait, ce match-là, c'est le match 2 qui a duré un carton. C'est le match 2 qui dure un carton, et ensuite, ouf, t'es sur un niveau de shot-making totalement inhumain, mais moins inhumain que dans le match 2 qui, là, était totalement historique. Donc, ma peur, c'est qu'on a déjà vu deux fois les Suns en feu dans cette série. Mais je parle en feu complet. Ils en ont perdu un des deux. Alors, vous me direz, je suis pas sûr que les Bucks vont réussir un match de cet acabit-là, mais moi, j'ai du mal à me projeter quand je vois que les Bucks les ont un peu battus de toutes les manières. Ils les ont battus en faisant un match où ils ont une forte adresse, ils les ont battus dans un match où il y a eu très peu de points, c'était extrêmement défensif, ils les ont battus dans un match entre guillemets normal où on était équilibré sur les deux tableaux. Cet homme qui nous demande les Bucks ont perdu juste un match à l'extérieur, non, je crois que c'est à domicile, et oui c'est ça, ils en ont juste perdu un à domicile sur cette campagne de playoff. Après, ces finales sont plaisantes. Ces playoffs, globalement, sont difficiles à pronostiquer, mais ça semble filer du côté de Milwaukee, ouais.
Ouais, c'est difficile de trouver des arguments dans l'autre sens, hein, j'ai essayé de voir, mais si on se place du côté
en fait,
des
Bucks... il faut que Chris Paul rejoue bien. Mais voilà. Comme on dit, on pense que c'est sa blessure, là. Enfin, moi, je ne peux pas imaginer Chris Paul faire deux matchs sans comme ça à ce niveau-là.
Soit c'est sa blessure, soit c'est l'âme des Clippers qui vient le hanter une nouvelle fois. Mais oui, effectivement, ça dépend de Chris Paul, parce qu'on pourrait parler ajustement, comme on en parle généralement au fur et à mesure d'une série, ajustement des coachs, mais comme on l'a dit tout du long de ce bilan-là, de ce Game 5, Monty Williams, il n'a pas vraiment de solution miracle. Tu ne vas pas faire rentrer, c'est pas Frank Kaminsky qui va te faire basculer la série. Donc voilà, ça passera par les joueurs, tu peux que faire comme ça, mais si on se place du côté des Bucks, ils ont l'air beaucoup plus sereins, il y a l'interview de Giannis, voilà, qui dit clairement, bon, les matchs d'avant, c'est derrière, l'ego, lui, les focus, il y a vraiment cette... on y revient, voilà, mais cette espèce de, voilà, d'aura de champion qui, ça y est, arrive du côté des Bucks. Et comme tu l'as dit, cette finale est tellement particulière, ces parcours sont tellement particuliers pour ces équipes que, bon, il y aura fort tristesse pour le perdant qui, forcément, aura raté cette fenêtre-là, mais les deux en sont, du coup, conscients que là, c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai pour les Bucks. Là, il faut que tu le prennes, celui-là, plus que jamais. Ouais. Et je pense qu'ils sont assez conscients de tout ça, puisque l'effectif est relativement expérimenté. La plupart sont là depuis quelques années, en plus, dans cette équipe même. Giannis, le premier, qui a été cible de nombreuses critiques. Je pense qu'ils sont conscients et concentrés sur la victoire.
Ouais, c'est le match de sa carrière, Giannis. C'est le match de la carrière de beaucoup de joueurs des Bucks. Tu l'as dit, l'occasion est trop belle. J'ai du mal à quand même imaginer un scénario où ils ne gagnent pas. On continue à prendre vos questions. Olivier nous dit « CP doit remettre de la créativité et être le boss pour arrêter la frustration de ses coéquipiers. On le voit beaucoup râler, s'estimer volé. » Un peu Devin Booker aussi sur le match. Il y a beaucoup de frustration. On l'a dit, c'est difficile pour lui, je pense. Peut-être le facteur blessure, le facteur Jrue Holiday, le facteur, il y a des lignes de passe qui n'existent plus quand on joue ces Bucks-là. Globalement, je te dis là, je suis vraiment, ce match-là m'a mis un coup parce que j'ai l'impression qu'en 2020, en 2019, 2018, etc., c'est caricatural, ils perdent ce match-là, les Bucks. C'est écrit, ils le perdent, 35 secondes restantes, ils ratent le shoot, tu te dis, ok, Booker va le mettre, ils vont faire n'importe quoi sur la dernière
possession.
Mais
c'est Bledsoe à la place de Jrue.
Tu te dis, ok, c'est perdu. Ils le gagnent avec du panache en plus sur cette dernière action-là, là où les Suns qu'on avait depuis le début de la série, on pensait meilleur dans le clutch, se troussent pratiquement sur deux matchs de suite. Tu l'as dit, les éléments coïncident trop. Il y a un moment, c'est la combienième finale que je fais sur ce podcast, 5e, 6e, il y a un moment où il y a des éléments qui s'enchaînent, et là, les éléments, ils sont trop en faveur des Bucks en ce moment.
Après, il y a peut-être un petit aspect, avant de prendre, je pense, un des commentaires, là, je vois, ça m'a fait sourire pendant que tu parlais, il y a peut-être un élément quand même sur ce début de match, hormis donc le barrage des Suns à 3 points, il y a aussi quelque chose qu'on a vu, c'est que on a beaucoup parlé de cette absence de profondeur du côté des Suns, là, notamment derrière Ayton, derrière Chris Paul. On a vu aussi que du côté des Bucks, le moment où Jrue est en foul trouble, eh ben, les minutes, elles sont prises par Jeff Teague. C'est pas que un choix de Bud, c'est que le moment où Jeff Teague rank dans le premier quart-temps, Jrue Holiday, il y a deux fautes. Alors, c'est compliqué d'aller cibler un guard, surtout qu'en plus les Bucks ont une très forte défense collective et sont capables de faire très peu de fautes, mais peut-être qu'il y a une piste à aller chercher quelque part, aller forcer des switches sur Jeff Teague pour que Ayton l'attaque et qu'il fasse plus de fautes. Je pense qu'il sera assez intelligent pour pas en faire sur Jrue Holiday. Je pense que Jrue Holiday est un assez bon défenseur et assez intelligent pour pas faire trop de fautes, mais peut-être qu'il y a une piste là. Les Bucks sont forts, ils sont longs, ils sont physiques, ils sont tous à peu près au niveau là, mais si tu sors un des guards, il y a peut-être un petit trou dans cette rotation.
Le problème étant, comme on l'a dit, je trouve, il y a d'un côté, c'est logique, quand t'as d'un côté Connaughton, de l'autre Holiday, t'attaques Connaughton. Enfin, c'est mathématique. Mais je trouve que sur ces fautes-là, je t'avoue, moi, à la place de Bud, j'aurais été terrifié du début de match. Parce que tu vois, Holiday très vite à deux fautes. Et on l'a dit, ils se sont écartés de ça. En fait, ils ont continué dans le deuxième quart-temps, notamment quand les shoots rentraient pas. Il y a peu de drive. On essaye de provoquer peu de fautes. Et globalement, j'ai été assez déçu de ça parce que oui, c'est un axe où il faut enfoncer du côté des Suns parce que Jeff Teague, on l'a vu, dès qu'il rentre. Alors, il y a eu des bons passages parfois épisodiques sur le début de la série.
C'est très, entendu.
C'est très, très épisodique. Mais globalement, c'est compliqué. Idéalement, faut faire ça, mais puis Holiday fait très peu de fautes. Hein. C'est quand même un mec qui défend et qui fait globalement peu de fautes. Donc, je suis déçu. Il tire 11 dans ses francs, c'est Suns de là sur ce match-là. C'est peu. C'est vraiment
c'est pas assez,
peu.
Mais après, ils ont peur de cette forêt de bras. Tu l'as dit, Chris Paul qui drive moins. Et puis, sur l'ensemble, c'est compliqué d'aller finir. Booker fait aussi des finitions, parce qu'on a parlé du shot-making, mais il fait aussi des très belles finitions. Mais sur ces Bucks, voilà, tu as soit Jrue, soit Middleton devant toi, qui est déjà assez long. Et puis derrière, tu as des couvertures à base de Giannis ou de Brook, ou même d'un Bobby Portis ou d'un PJ Tucker. C'est très compliqué d'aller finir. Et je pense que tu te dis, je suis pas sûr d'avoir la faute, je préfère prendre le shoot entre guillemets confortable. Et d'ailleurs, c'est peut-être un point positif. Alors, je suis désolé, je fais une grande parenthèse, mais j'y pense là maintenant. Sur ce match, on a très peu vu les arbitres. Et franchement, c'est un plaisir.
Adrien et les arbitres.
Voilà. Non, mais c'est un plaisir. Quand on n'a pas des coups de sifflet sur une fin de match serrée comme ça, on laisse un peu jouer, on siffle pas. Voilà, en fin de match, on sait que les fautes sont souvent un peu moins sifflées, où il y a un peu plus de contact. Voilà, on laisse le rythme se faire. Il y a deux matchs, enfin un match plus haché où il y a des reviews et il y a des coups de sifflet toutes les deux secondes. Par exemple, l'interception de Jrue, ils auraient été capables de la siffler pour la review, quoi. Et là, on l'a pas vu, on a joué, on a continué. Et c'est très plaisant d'un point de vue spectateur basket, quoi, tout simplement.
Sur ce refus de chercher les lancers francs, je viens de regarder là, 3 lancers francs tirés par les Suns dans le dernier quart, et il y en a 2 pour Ayton, et c'est une faute où il se fait sabrer par Middleton parce qu'il veut éviter que Ayton ait 2 points faciles au cercle.
D'ailleurs, faut qu'Ayton arrête de redescendre la balle d'ailleurs sur les rebonds. Il en a eu quelques-uns et il a encore cette manie, mais de jeune intérieur, de prendre la balle et de redescendre. Garde-la en haut, regarde ce que fait Brook Lopez, ça t'aidera à prendre des fautes supplémentaires. Petite parenthèse.
Il parle comme un sage, Adrien, c'est magnifique.
Non, comme mon coach qui m'engueulait quand j'étais en minime.
Ah, aussi. Alors, il y a Kamel qui nous dit oui. Je pense que globalement, tout le monde est d'accord pour dire que Chris Paul est un peu la clé pour la, ouais, pour la suite. Gérer correctement les fautes. Et le truc, c'est qu'ils sont même pas vraiment gênés par les fautes. C'est ça aussi, hein. Depuis le début de la série, les Suns, sur plus d'un match, et ça s'est pas limité à Ayton, ont eu des problèmes de fautes, ce qui n'est pas arrivé pour les Bucks, globalement. Les Bucks sont une équipe qui défend extrêmement bien sans faire de fautes. Donc, le problème de fautes, demain, si on m'annonce un problème de fautes, je parierais plus sur les Suns, sur les Suns que sur les Bucks.
Ouais. C'est peut-être aussi une illustration de la softness, entre guillemets, de DeAndre Ayton. Je pense qu'il a vu que quand il était en foul trouble, c'était très compliqué, et que du coup, il se donne moins, par peur des coups de sifflet, notamment parce qu'en plus c'est un jeune joueur et qu'on sait que les coups de sifflet vont généralement plus à l'avantage d'un Giannis dans un contact entre Giannis et DeAndre Ayton.
C'est vrai, un peu soft. Après, ça c'est quelque chose qu'on a... Il y a peut-être eu vis-à-vis de DeAndre Ayton un... On l'a peut-être sous-estimé en arrivant dans ces playoffs, on l'a peut-être un petit peu à un moment surestimé. Enfin, moi j'ai lu des trucs, on en parlait en off entre nous, durant les playoffs ou surtout durant les finales où... Au niveau de son prochain contrat, j'ai vu des trucs avec lesquels je suis pas super d'accord. On en discutera peut-être cet été. Donc, donc on verra. C'est un très bon intérieur, mais encore une fois, c'est un joueur, on le répète à chaque fois, c'est un finisseur. Et là, quand le collectif est pas en symbiose, bah, c'est compliqué pour lui. On nous demande, ah, j'aime bien ça, où arrive Giannis dans le DH20 s'il gagne le titre? J'ai déjà balancé quelques blasphèmes vis-à-vis de la position de Giannis. Je vous annonce qu'il va être très, 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 très haut. Alors bon, il y a toujours des joueurs qui seront plus hauts que lui. Mais encore une fois, il répond à un idéal de première option défensive, deuxième option offensive. Il y a un seul joueur autre que lui qui peut faire ça en NBA. Et c'est un joueur qui a été pensé comme MVP des finales pendant 3 matchs l'autre fois, quand il avait le meilleur joueur du monde sur le terrain. C'est un peu compliqué à suivre. Donc,
Anthony Davis, pour ceux qui n'ont pas suivi.
Donc, du coup, il sera assez haut. Puisque les Suns n'ont pas de small ball efficace, ils ne gagneraient pas à tenter le cas Kaminsky, pas trop vite abandonné. Kaminsky, il est...
Non, on a vu que ça marchait pas, les minutes avec Kaminsky. Le small ball, il est pas efficace parce que Chris Paul n'est pas là. Alors, si tu fais le choix, peut-être tu tentes le grand pari Kaminsky. Enfin, je réponds de mon point de vue à moi. Tu tentes le pari Frank the Tank. Est-ce que tu tentes le pari Frank the Tank ou celle de Chris Paul qui revient et qui est meilleure en termes de probabilité
ou celle
et en
de
plus
l'adresse.
D'efficacité et celle de l'adresse, effectivement. Mais je pense, pour moi, elle est inclue dans le fait que Chris Paul est meilleur, crée des meilleurs décalages et des meilleurs shoots. Ça va avec. Vie et meurt avec Chris Paul, il t'a emmené jusque-là. Parce que c'est ça aussi. Là, on tombe entre guillemets sur certains joueurs ou peut-être coach, etc. au fur et à mesure. Si les Suns sont une des équipes surprises de cette année, mais l'équipe surprise de ces finales, ils ont été emmenés jusque-là, notamment par Chris Paul, par DeAndre Ayton, par Monty Williams, par Campaign, etc. Donc, Chris Paul t'a emmené jusque-là. Oui, il n'est pas dedans. Oui, tu risques de perdre. De toute façon, là, tu es dans une mauvaise dynamique. Mais tu te dois de continuer à jouer, à faire ce qui a fait ta force tout au long de la saison. Et juste, je réagis à Tom, effectivement, softness n'est pas un mot français. Quel est le mot français? C'est la délicatesse, peut-être.
Parce que soft, c'est pas
non,
trop
c'est
ça,
pas
ouais.
Assez dur.
Ils
manque
sont
de
mollassons
dureté.
Un peu. Ouais,
voilà,
ils sont
voilà manque de dureté, je veux dire.
Ouais. Par rapport au cas Kaminsky, pour moi, ça rejoint peut-être... Il y a des coachs qui sont... imperméable. Enfin, il y a des coachs qui... Monty Williams, sa gestion d'Ayton me pose problème. Je suis d'accord avec toi, il faut faire le pari du small ball, mais à un moment, c'est pas viable, encore une fois, de le faire jouer 45 minutes. Et à un moment, Monty Williams, quand sur tous les matchs depuis que Saric est pas là, il fait pratiquement jouer Ayton du 12 minutes ou à quelques secondes près dans le premier quart-temps, je suis désolé, c'est pas là où se trouvera la solution parce que on avance dans la série, la fatigue se fait ressentir et... Même si, tu l'as très bien dit, le box score de Dayton est bon, hein, dans l'impact, ça baisse de plus en plus. Donc, alors oui, c'est, on avait posé la
bien
question...
Bien vu, process. Ouais. Softness égale mollesse.
et du coup, bah, je pense vraiment que du côté des Suns, Alan l'avait dit, il faut faire le pari du small ball. Tu vas mourir et vivre avec ce small ball. Mais il faut faire ce pari-là. Kaminsky n'est pas une solution. Il est mollasson. C'est un 2 dans le corps d'un 5. Il va se faire trouer par Giannis. Alors, c'est très simple. Hein. Il joue Kaminsky, les autres en face virent les intérieurs. Ils mettent Giannis et Giannis en met 15 sur la séquence. Donc,
ouais, bon, tu peux même mettre tes intérieurs. C'est le gros avantage des Bucks. C'est que Brook Lopez et Portis, tu peux les mettre dans le corner. Et il laisse. D'ailleurs, on a eu des séquences avec Giannis en 3, entre guillemets. Et ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai, cette
line-up-là ne doit pas exister dans une finale. On est d'accord. C'est un peu l'illustration du problème qu'on soulève depuis le début de ce podcast, Adrien. Tu ne peux pas, même sur une légère séquence, tu ne peux pas mettre Giannis, Portis, Lopez et t'en sortir. C'est surtout ça.
Et être positif, oui, c'est ça. Après, Olivier, voilà, qui a continué sur cette histoire du small ball ou de Kaminsky. Si t'économises Ayton, il sera meilleur. Voilà, la question, c'est comment t'économises Ayton. On est d'accord. Il sera probablement meilleur parce que plus en forme, il aura moins peur d'être en fall trouble, etc. etc. Bon, on penche, semble-t-il, toi et moi, Ben, pour plus de minutes de small ball que de minutes Kaminsky du moment où tu n'as pas Ayton. Alors, évidemment, avec les risques qui vont avec de ces grandes line-up et puis de te faire punir. Parce que Brook Lopez, je trouve que l'utilisation, par contre, de Bud, de Brook Lopez, s'affine au fur et à mesure de la série. Alors oui, Brook joue moins. Mais il l'utilise toujours dans des séquences importantes. Les moments où il y a du small ball, parce que Brook Lopez, c'est plus le joueur des Nets. Mais si tu lui donnes la balle au poste face à Jrue Crowder ou Torrey Craig, t'inquiète pas. Hein. La balle, elle va aller dedans, ça fait 2 points. Et en plus, il est capable d'écarter les moments où t'as besoin de que Giannis drive, etc. Donc, vrai casse-tête, voilà. Avantage d'effectif, de carte du côté de Bud par rapport à Monty Williams.
Je pense qu'on a fait complètement le tour. Lopez, il est utilisé de façon, tu l'as dit, très ciblée, mais on l'a vu sur le début de la série, c'était compliqué de l'utiliser plus. Donc je pense que là, Bud, il faut faire un mea culpa, hein. Sur la série, il est solide. Au coaching, il est vraiment solide. Alors oui, Jeff Teague va probablement se marier avec sa fille probablement. C'est une de mes seules explications rationnelles. Mais à part ça, après encore, on l'avait dit, hein. Tu peux comprendre qu'il se dit, bon, bah, Jeff Teague, c'est un mec qui va pénétrer et ça peut amener de la variété à mon équipe offensivement. Bon, il fait pas très bien, donc en tout cas, mais ça, c'est comme ça que tu peux le comprendre. Adrien, on a fait le tour. Ça va être déjà un podcast et un live. On vous remercie d'être présent très long. Pronostic. Et, la petite case MVP côté Suns. Du coup, c'est Booker maintenant. Aïe.
Bah, non. Alors, je ne change pas d'avis. Alors, je sais que ça va en faire sauter quelques-uns, je pense. Mais c'est-à-dire que je pense que si les Suns gagnent, ce sera du fait de Chris Paul, toujours. Donc, à partir de là, le plus valuable... Parce que oui, peut-être que Booker est meilleur dans l'absolu parce qu'il met plus de points, il fait des performances plus flashy, ça pète dans les yeux, c'est super. Sauf que voilà, il n'est pas valuable au sens premier du terme, dans le sens où il met 40 points deux fois de suite, les Suns ont perdu deux fois de suite. Voilà. C'est-à-dire que si quand tu gagnes, il faut que Chris Paul soit bon. Donc pour moi, si les Suns gagnent, c'est Chris Paul qui serait le MVP des Finals. Alors après, ça dépend aussi de la manière.
Il a mis
40
points deux fois de suite quand même.
Oui, peut-être qu'il en met 50 et 70. Ok, bon là je m'incline, aucun souci. Et avec grand plaisir. Mais je pense toujours que ça, le salut des Suns passe par Chris Paul. Et à partir de là, je lui donnerai à lui. Même si c'est vrai que avoir un trou pareil en milieu de finale, là où Booker a été plus constant, avec donc ses pics à 40 points, mais qui a quand même été plus constant globalement, pourrait lui amener ce titre-là si les Suns arrivaient au bout.
Je penche vers Booker. Alors, je penche pas, c'est pas le vote que je validerai, c'est le vote qui, selon moi, sera validé par les autres. Et là, je mets Booker, parce que les 2 à 40...
Probablement.
Un mec de 2 fois 40...
Sur ses premières finales.
Sur ses premières finales, surtout si là... On part dans l'optique d'un retour des Suns, c'est-à-dire qu'ils en gagnent 2, revenir de 3-2, etc. À part si Chris Paul fait la même dans l'autre sens, j'ai un peu de mal à voir ce MVP des finales lui échapper encore une fois. Hein. Si les Suns gagnent, vous avez compris qu'on se dirige plus
dans
vers
l'autre
les
sens.
Bah, j'ai vu
justement.
CJ McCollum dire.
Tout à fait, sur Twitter. Ouais.
Sur Twitter, pour ceux qui ne l'ont pas vu, combien de votes aura Chris Middleton? Bah, 0, parce que c'est pas le meilleur joueur de son équipe, donc voilà. Mais c'est chiant parce que, en fait, je commence à avoir une petite dent contre CJ McCollum, hein, parce que c'est quand même le CJ McCollum, pour si je joue ma parenthèse, c'est le mec qui s'est plaint de la reprise beaucoup trop tôt du calendrier NBA alors que le mec a une position de choix dans le syndicat des joueurs quand même. Donc j'ai quand même un peu de CJ McCollum, il y a plusieurs trucs où il m'irrite un peu. Donc là, il aura zéro voix, Chris Middleton, parce que le meilleur joueur, c'est Giannis. Et j'ai même envie de te lancer sur un truc. Je trouve que ça réhabilite un peu notre théorie du meilleur joueur de la série. Parce que là, indéniablement, c'est le meilleur joueur de la série, c'est le plus constant, et on remarque que du coup, c'est son équipe qui va probablement gagner. Là où tu l'as dit, il ne faut pas oublier que Booker, il fait un match à 10 points de mémoire avant le 40. Il en fait un, il ne dépasse pas 20 hein, sur le match. Oui, on est à 5, 4. Tête, mais... Donc sur le match 3, il dépasse pas les 20 points. Donc, meilleur joueur de la série.
Ouais, oui, meilleur joueur de la série, clairement. Après Chris Middleton, bon, déjà CJ McCollum, il prêche pour sa paroisse, entre guillemets, parce qu'il a à peu près le même rôle que Chris Middleton.
C'est ce que nous dit Olivier, ouais.
Il parle de lui, en fait, exactement, Olivier, on est tout à fait d'accord. Il a le même rôle, donc il aimerait avoir le... S'il y a de la reconnaissance pour Middleton, il peut partir au principe que ça en donne pour lui. Et effectivement, bon, on rejoint ce que ton analyse à toi, Ben, sur la domination de Giannis, dans le sens où, oui, ben voilà, Middleton, il met les gros shoots flashy qu'on aime, les step back, les long two. Il faut les mettre, hein. C'est sûr qu'ils sont durs à mettre. Mais c'est les seuls shoots que met Middleton.
Il en met un sur Bridges qui est inhumain, hein, à 3 points.
Après, c'est les seuls shoots que met Middleton. Hein. Middleton, c'est pas le plus rapide sur son premier pas, c'est pas le plus physique, il crée pas d'énormes séparations incroyables. Voilà, il vit et meurt avec ces shoots-là. Bon, il le fait magnifiquement, bravo à lui, c'est sûr que c'est impressionnant. Giannis, il domine à sa façon, tu le vois pas forcément beaucoup, même si on l'a vu s'envoler quand même 2-3 fois, et puis que ce soit pour un dunk ou pour un contre de l'autre côté, mais c'est clairement le meilleur joueur, il est là pas. Et puis, si Middleton et Giroud sont capables de mettre des points, c'est aussi parce que Giannis attire du monde, est présent sur des écrans. Bon, les Suns qui passent toujours dessous, hein. Bon, alors là, le shotmaking était incroyable, mais je maintiens arrêter de. Qui passe dessus, pardon. Passer au-dessous de temps en temps, parce que souvent c'est un drive. Middleton, il met encore la plupart de ses shoots. Alors oui, il y a des pull-up à 3, mais la plupart c'est des pull-up à 2, assez impressionnant. Donc bon, non, c'est Giannis. Si les Bucks gagnent, c'est Giannis. Il n'y a pas photo. Et puis que ce soit ce qu'on a envie de mettre, le basket, comme on dit, qu'on illustre le meilleur joueur, et puis que ce soit le narratif de ben, voilà, le double MVP Deep Boy, MVP des Finals. Bon,
ça a été dit et répété, mais son CV à 26 ans, il est dingue. S'il gagne, on aura le temps d'en parler dans le résumé du match. 6, s'il gagne en 6, 7, s'il gagne en 7, ou parler des Suns, mais le CV est totalement incroyable. À noter, je n'ai de préférence pour aucune des deux équipes, j'ai juste une préférence globale. J'aime quand l'équipe championne gagne à domicile. Surtout.
Ah oui, ça, c'est kiffant.
Dans une saison où, enfin, l'année dernière, on était chez Mickey. C'est compliqué.
C'était un peu triste, hein, la cérémonie finale l'année dernière, ça manquait du folklore qui fait un peu ce qu'on aime la NBA. Quoi.
Et puis, les Raptors gagnent, ça fait un bail, hein. Les Raptors, ils gagnent à Golden State. L'année d'avant, les Warriors les sautent en 4. Faut retourner à l'année encore d'avant pour voir un match. Donc, on est à 2017 pour trouver un champion qui gagne chez lui. Alors, on va me fact-checker, je serai probablement faux sur celle-ci. Mais je pense qu'il faut remonter. Il faut remonter à 2017 hein, pour voir un champion qui gagne chez lui. Donc, j'aimerais ça. Ce qui fait que donc, je serai un supporter de facto des Suns si ça va en 7. Hein. Je reste cohérent. Adrien, je vois pas ce qu'on peut dire de plus. Je vérifie, hein, mais c'est bien 10 points hein,
Pour Booker,
c'est... Ils ont quand même eu, au global, hein, 10 matchs Booker-Paul. Il y en a 3 sur les... Tu vois, si tu t'ajoutes les deux, il y en a 3 sur les 10 où ils se sont troués quand même. Globalement.
Oui, là c'est... où en plus ton salut passe par... les deux doivent être bons en même temps.
Après,
tu parlais du meilleur joueur de la série. On a peut-être quelque chose à ajouter. On parlait souvent de qui est le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième meilleur joueur de la série. La densité de l'effectif des Bucks derrière Giannis fait que du côté des Suns, tu ne peux pas te permettre que tes deux meilleurs joueurs, donc Chris Paul et Booker, soient plus bas que l'un ou l'autre, soient plus bas que Giroud, Chris Middleton et parfois le meilleur joueur du match. Là, devant Chris Paul, tu pourrais même placer, je ne sais pas, Pat Connaughton. Ou... Bon, c'est peut-être un peu sévère, mais voilà, tu ne peux pas te permettre que tes deux joueurs soient trop bas. Il faut que tu aies besoin que les deux soient, au mieux, deuxième et troisième meilleurs joueurs sur le terrain. Et au pire, 2-4, 2-5. Mais vraiment au pire du pire.
Ce qui est une magnifique revanche pour les Bucks, parce que on l'a dit sur le match 1 et même le match 2, le deuxième meilleur joueur des Bucks au global, il est cinquième meilleur joueur de la série. 4,
oui, parce 5, qu'on a Michael 6. Qui fait un.
Michael fait un match de ouf. Ayton est bon. Et là, c'est une renaissance. Pourquoi ? Il faut commencer. Je le répète tout le temps. Hein. Parce qu'ils peuvent vivre sans leur initiateur. Parce que Holiday et Middleton peuvent vivre sans Giannis, là où beaucoup des joueurs de complément du côté des Suns ne peuvent pas vivre sans Chris Paul. Et le deuxième porteur de balle ne les fait pas vivre.
Après, il y a un autre léger facteur aussi, j'y pense maintenant, mais c'est que les victoires des Bucks, en général, ils les assoient avant la fin. On en a beaucoup parlé, c'est Tom qui en parlait, des Bucks qui ont besoin d'être devant à plus 15 à 2 minutes pour être serein. Alors certes, ils se font légèrement remonter, mais les Bucks sont meilleurs quand ils sont devant et qu'ils doivent gérer. Même Chris Middleton, je le trouve plus serein dans son shot-making, plus efficace quand il est devant et qu'il doit, entre guillemets, tuer l'adversaire. Que quand il doit sauver l'équipe et qu'il a la responsabilité sur ses épaules.
À part quand il est à moins 18, comme dans le match 2 où il met des grands pull-up.
Mais... Ouais, mais je parle en situation de clutch de manière générale. Ouais. Je pense que les Bucks ont toujours besoin d'être devant et c'est là aussi, encore une fois, et on y revient. Monsieur Chris Paul, c'est à vous de faire en sorte que ce ne soit pas le cas, de garder les Suns à flot pour que dans le clutch, vous soyez au mieux devant.
D'accord. Et bon, on va conclure comme ça ce live / podcast. Adrien, qui gagne le match 6 ?
Milwaukee. Disons, j'y crois plus trop. On a essayé de donner
moins d'entrain, s'il te plaît.
Oui, non, mais pareil, je suis supporter des Bulls. Mm. Bon, c'est les voisins, donc tu pourrais dire qu'il y a une espèce de rivalité, mais c'est pas vraiment le cas.
Après, il y a Portis.
Déjà, il y a Bobby Portis, très content pour Bobby Portis, qui est très bon, toute la salle de Milwaukee l'aime. Non, mais il y a les personnels. Là, peu importe le vainqueur, je serais content pour quelqu'un, que ce soit Giannis d'un côté ou Chris Paul de l'autre. Les histoires sont belles et les joueurs, les êtres humains derrière sont. L'histoire des joueurs, parce que l'être humain Chris Paul, je sais pas trop par rapport. Il est un peu plus fouinasse que Giannis. Mais en tout cas, voilà, si les Bucks doivent gagner, je serais content pour Giannis. Et je pense qu'ils vont le faire. Là, c'est. Comme je le disais, je les sens concentrés pour terminer cette histoire. Et puis la fenêtre est belle et comme tu disais, j'ai envie d'avoir un gagnant à domicile. Donc si ça doit être les Bucks, autant qu'ils le fassent maintenant.
Je crois vraiment que c'est 2017. Hein. Je me suis refait des trucs dans la tête depuis. Je crois vraiment que c'est 2017. Hein. Je crois vraiment. Je vais partir sur les Bucks aussi. J'ai l'impression... J'ai réécouté le podcast de la dernière fois.
Après le Game 4 ?
Après le Game 4, ouais. Okay. Match 4, Game 4. Si vous remarquez bien, je ne dis jamais Game 4.
C'est vrai.
Soit on dit l'un, soit on dit l'autre. On choisit. Le principal argument pour les Suns, c'était « Ah ouais, mais l'avantage du terrain, notamment Madian et tout, on en a parlé, l'avantage du terrain, il mène toujours 2-2, etc. » J'ai l'impression que depuis le match 3, la plupart de nos arguments en faveur des Suns se basent uniquement sur « Ils ont l'avantage du terrain et ils mènent XX. » Tu vois. Sur les arguments pure basket, stratégie, tactique, on donne l'avantage aux Bucks, donc je vais donner la victoire aux Bucks. Même si, puis quand tu rajoutes le facteur Chris Paul qui a l'air pas à fond, je vais donner ça aux Bucks.
Ce qui fait donc une espèce de repentance de Chris Paul serait quelque chose de magnifique aussi, mais bon.
Ah, moi, je veux un match comme celui. C'est un très. On peut conclure là-dessus. Hein. Très bon match. J'étais le premier à dire ces équipes-là, c'est pas les plus folles qu'on a en finale. Très très bon match, vraiment. Très bon match
extraordinaire de shotmaking, surtout, c'est ça qui rend le truc dingue.
Puis un peu de... Je l'ai lu sur Twitter un peu, ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas une série en finale où tu te dis, ok, les deux équipes sont vraiment au coude à coude, il n'y a pas un océan entre les deux. Parce que la dernière où ça s'est vraiment joué au coude à coude, et encore, ça se défend difficilement, Raptors-Warriors, t'as l'impression qu'ils tombent un par un, les Warriors. Tu vois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cette sensation-là, donc
c'est presque Cavs-Warriors.
C'est presque Cavs-Warriors, c'est une éternité, donc c'est agréable.
Et on espère un Game 7, hein. C'est vrai, comme le dit Olivier, tout pour un Game 7, c'est vrai que bon, on a envie de voir ça, c'est toujours
tu
bien.
Tu m'as dit Game 7, merci Adrien, je suis trop content. Tu m'as pas dit Game 7. Et d'ailleurs, on va remercier beaucoup Olivier pour son très très gentil commentaire, merci beaucoup pour votre live, c'est top de discuter avec vous, j'aime beaucoup vos analyses non partisanes, des vrais fans de basketball, oh je suis trop content là, on apprend beaucoup avec vous, je dois vous laisser au plaisir. Et ben merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis, et c'est ça messieurs, la clé L'objectivité, c'est un idéal, ça n'existe pas. Par contre, l'impartialité, ça existe. Voilà, ce sera le mot de la fin, le dicton de la fin. Adrien,
c'est bien dit.
Quelque chose à dire. Rien du tout. On va finir notre nuit, tous les deux. On va se préparer avec l'ensemble de l'équipe du site pour le match 6, qui sera peut-être ou pas le dernier de la saison. On vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, une bonne soirée à tout le monde. Au revoir.
Salut.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.